Radio Campus, Grand Clermont.
Avocat près de la cour d'appel de Kinshasa, Maître Yoko Yakimbe Jean-Placide est celui que Grand Témoin reçoit pour aujourd'hui. Maître Yoko, bonjour.
Bonjour, Madame Kili.
Vous allez bien, Maître?
Merci, Madame, je vais très bien.
Maître, avec vous, dans notre entretien, nous allons parler de votre personne. C'est vrai que dans le monde judiciaire, Maître Yoko est connu. On va vous faire découvrir auprès de tous ces auditeurs qui nous suivent sur Radio Capillon en ce moment. Donc, comme je l'ai dit, nous parlerons de votre personne, de votre carrière professionnelle, mais nous parlerons aussi du fonctionnement de la justice congolaise, puisque c'est votre domaine, et de droit et conflits coutumiers. Vous êtes licencié en droit coutumier. On parlera des conflits coutumiers, comment gérer les conflits coutumiers. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une brève biographie de vous. Vous naissez un certain 12 décembre 1939 à Tofa. C'est dans quelle province, Tofa?
Tofa, oui, madame.
C'est là que vous passez votre enfance, à Tofa?
Oui, madame. Juste à la fin de l'école primaire.
Vos études primaires, vous les avez faites à Tofa,
oui.
Après Oriental.
Oui.
Et le secondaire?
Le secondaire, quand même.
Quelle section?
Humanité économique.
L'université?
Je suis venu à Kinshasa. J'ai fait mon droit. Ma licence de droit à l'École nationale de droit et d'administration.
Vous avez fait les études économiques aux humanités. Pourquoi avoir fait le choix à l'université d'embrasser le droit?
Oui, parce que nous sommes dans le pays de l'indépendance. Et il y a d'énormes perspectives de carrière qui s'ouvrent. Je trouvais qu'avec le droit, j'aurais plus d'ouverture qu'avec les sciences économiques.
Alors vous êtes licencié en droit de l'École nationale de droit et d'administration en 1967 et licencié en droit coutumier.
Le diplôme d'études spéciales de droit coutumier, je l'ai obtenu à l'Université Lorrain, ici au Congo. À Paris, j'ai fait deux DS, deux diplômes d'études supérieures et doctorat en droit public et en relations internationales.
Pourquoi cette licence spéciale en droit coutumier?
Parce que j'étais particulièrement intéressé à comprendre l'origine du droit africain. Ce que nous apprenons qu'il y a un droit écrit, et c'est un droit d'inspiration occidentale. Il faut toujours se référer à la coutume occidentale pour comprendre le sens, l'origine et l'économie d'une règle de droit écrit. Alors moi, je voulais compléter un peu ma formation en découvrant les sources du droit traditionnel africain pour comprendre comment l'Afrique était gérée, quelles étaient les normes de conduite qui étaient prescrites par la société africaine pour les Africains. En ramenant les deux sources d'inspiration du droit, ça m'a permis de faciliter un peu ma tâche, mais d'avoir aussi une compréhension plus profonde du droit en général.
Vous êtes aussi docteur en droit de l'Université de Paris en 1971.
Deux doctorats en droit public obtenu à Paris, un doctorat en sciences politiques obtenu à l'Université de Dijon en France.
C'est pour compléter vos connaissances?
Oui, il faut dire que j'avais une grande facilité à étudier et puis que j'avais été aussi servi par mon gouvernement. À l'époque, le Congo était riche et moins pauvre qu'aujourd'hui. De telle sorte qu'un esprit brillant pouvait obtenir le concours du gouvernement pour aller faire des études au niveau du doctorat dans n'importe quel pays. Mmh. Et le pays financé.
Donc, vous avez étudié à l'étranger grâce au gouvernement qui était en place en ce moment-là.
Oui, le gouvernement était bon. Il gérait bien les finances publiques. J'ai dit, le Congo de l'époque était un pays riche.
Quelle époque?
À l'époque où j'ai étudié.
Oui, mais c'était quelle époque maintenant?
Non, mais j'ai étudié entre 1960 pour l'université jusqu'en 1971. Cette période-là, le Congo était riche et nous étions fiers, comme étudiants congolais à l'étranger, de pouvoir dire à nos collègues qui étaient avec nous qu'ils pouvaient, en terminant les études, venir travailler au Congo et gagner très bien leur vie. Et c'était vrai.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, le pays s'est beaucoup dégradé. Si vous lisez le dernier rapport du CNID pour le développement humain dans le monde, rapport de l'année dernière, qui vient d'être publié, le Congo est parmi les trois pays au monde dans lesquels la condition humaine a régressé au moins de 40 ans. C'est le Congo, c'est le Zimbabwe, c'est le Tchad. Alors qu'à l'époque où moi j'ai étudié, le Congo était parmi les premiers pays à voie de développement. En 1960, lorsque la colonie du Congo belge accède à l'indépendance, le Congo avait le niveau de vie et de développement des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Canada, comme la Corée du Sud. Aujourd'hui, ces pays sont devenus des puissances économiques et qui se dirent parmi les économies émergentes. Et le Congo est parmi les derniers pays. En 1960, un Congolais avait une espérance de vie qui se situait après 50 et 55 ans. Aujourd'hui, d'après les Nations Unies, d'après le rapport de Pnid, notre espérance de vie est de 42 ans.
Et comment vous expliquez-vous, Maître Yoko, cette régression?
Mauvaise gestion du pays. Mauvaise gestion, il n'y a pas d'autre explication. Et cette mauvaise gestion s'explique aujourd'hui par une faiblesse extrême des structures étatiques. L'État est présent au Congo sur un espace d'environ 25% du pays. Et ça dans tous les secteurs. Ce n'est pas avec cette couverture étatique de moins de 25% que le pays peut se développer.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un problème des personnes ou de volonté pour que la RDC retrouve quand même son image d'antan?
La volonté, madame, c'est une attitude humaine. Tout est dans la personne. C'est un problème des personnes. Donc rien ne nous manque au Congo pour faire de ce pays un pays moderne, un pays développé.
Merci, M. Yoko. Vous êtes marié et père de trois enfants, marié à une Française.
Et trois enfants, deux garçons et une fille.
Qui vivent avec vous ici au Congo?
Oui, il y en a un qui vit avec moi ici au Congo, qui travaille avec moi tous les jours. Il y a une qui travaille à Paris, qui est conseillère juridique dans une banque. Et l'aîné est mort accidentellement en France.
Radio Capitaine, grand témoin.
Maître Yoko, vous n'êtes pas seulement avocat après la Cour d'appel de Kinshasa, vous êtes aussi en politique. Parce qu'en 1977, vous étiez commissaire d'État, c'est l'équivalent du ministre aujourd'hui, au travail, à la prévoyance sociale. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique?
Ce qui m'a attiré en politique, personnellement, c'est la volonté d'être un peu plus reconnaissant à l'égard du Congo, un peu plus utile à la population congolaise. Parce que je dis que moi, j'ai tout reçu du Congo. J'ai fait des études dans de très bonnes conditions. Et puis, avant même que je termine les études, j'étais déjà proposé à de hautes fonctions dans ce pays. Je me suis dit qu'il suffisait pas que je gagne ma vie, moi, et bien avec ma famille, que je pouvais chercher à être un peu plus utile pour un peu plus grand nombre de personnes. Voilà ce qui m'a attiré en politique. Et je le dis d'une manière sincère, parce que les revenus que j'avais en 1977, au moment où j'ai été nommé commissaire d'État au travail et à la prévoyance sociale, étaient 3,5 fois supérieurs aux émoluments des réfugiés. Sans être ministre, j'avais un peu plus de 3 750 Zaïre. En devenant commissaire d'État, j'ai touché 1080. Moins d'un tiers de mes revenus personnels. Donc, en allant dans la politique, je me suis appauvri, mais j'ai trouvé que c'était un appauvrissement indispensable pour servir. Moi, j'ai toujours dit que si on veut que le Congo, non pas se développe, mais arrête la régression. Le Congo, ce n'est pas un pays en stagnation. C'est un pays en régression permanente, quotidienne, dynamique, exponentielle, qui coule chaque jour comme le fleuve dont il porte le nom. Ça, c'est dramatique. Quand vous avez le malheur d'avoir beaucoup étudié, le malheur de comprendre la situation d'un pays que vous aimez, l'unique qui est le vôtre, il n'y a pas moyen de dormir tranquille.
Vous ne dormez pas tranquillement.
C'est difficile.
Vous avez des soucis du pays.
Vous pouvez me comprendre. Et je subis un vieillissement très fort à cause de cette situation. Ce n'est pas possible. Je me demande ce qu'il faut faire. Il faut que l'État devienne congolais. Il faut que l'État soit réfléchi comme une institution congolaise à partir des aspirations des Congolais, à partir des besoins des Congolais, à partir des ressources disponibles aux Congolais. Madame, moi, je choisis de ne plus parler. Parce que plus je parle, plus je deviens malheureux,
Et vous vieillissez.
Je vais que tout se contamine de temps en temps aussi, c'est au ciel qui m'écoute. Alors, je préfère me taire. Et comme ça, la bonne humeur peut venir du soleil, peut venir de la lune, de la nature, de l'eau, de l'environnement immédiat.
Voilà, je sais que vous avez été aussi ministre de la Justice et des réformes institutionnelles. Là, nous sommes en 1991.
Oui,
ministre des Affaires foncières 1993 à 1994, directeur des cabinets au ministère du Portefeuille en 2000, revenant sur la justice. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent du fonctionnement de la justice congolaise, Maître Yoko. Vous êtes avocat près la Cour d'appel de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette plainte de la population?
Madame, je peux vous dire que la justice représente, et d'après la théorie de Montesquieu que nous avons apprise à l'université sur la séparation des pouvoirs, la justice représente le troisième pouvoir de l'État, le pouvoir constitutionnel. Il y a le pouvoir législatif qui élabore les lois, il y a le pouvoir exécutif qui exécute les lois, il y a le pouvoir judiciaire, et ce n'est pas la justice, qui est chargé de sanctionner les manquements constatés dans l'application de la loi. Comme l'État lui-même est une structure insuffisante, le tiers de l'État ne peut pas être suffisant. À partir du moment où l'État fonctionne au quart de ses responsabilités, une justice fonctionnant à ce niveau-là laisserait au moins 40 millions de Congolais en dehors de ces structures. Déjà, par la couverture judiciaire du pays, la justice est insuffisante chez nous. C'est un peu comme pour la santé. On a plein de malades, mais les hôpitaux et les dispensaires que nous avons couvrent quel pourcentage de la population. Nous ne faisons pas ce petit exercice. Vous regardez la justice. Du point de vue de son implantation, elle est insuffisante. Il y a beaucoup d'endroits où elle est absente, où il n'y a pas de culture judiciaire, où c'est encore les notables, les coutumiers qui s'en occupent. Vous regardez du point de vue du nombre de magistrats. Il y en a très peu dans le pays qui sont en fonction. Aujourd'hui, là, il y en a moins de 2 000 en activité pour une population de 65 millions d'habitants. Plus c'est les étrangers. Ça c'est combien de personnes par un magistrat.
Mais il y a beaucoup d'étudiants qui finissent son droit. Pourquoi on n'utilise pas ces étudiants qui finissent ses études et qui cherchent du travail?
Madame, je vous réponds. C'est pas à l'université qu'on apprend à être magistrat. Puisque l'université enseigne pour les maîtres juridiques, donne des notions. Mais pour devenir magistrat, il faut être formé à cette profession. Et chez nous, les magistrats prennent la carrière. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui beaucoup de magistrats de parquet, beaucoup de juges, de tribunaux qui ne connaissent pas leur métier. Ils n'ont pas peur d'ignorer leur métier parce qu'ils n'ont pas appris. Alors, nous sommes dans un pays qui a commencé en 60 avec une école pour former les magistrats, pour former les fonctionnaires. Qu'est devenu cette école? Les bâtiments de l'École nationale des droits d'administration, là où il a fonctionné, sont occupés aujourd'hui par le centre supérieur militaire. Ce n'est pas la faute des militaires. L'école était déjà supprimée en 71. Après 11 ans de fonctionnement. L'endroit où l'on étudie à l'ISC, les bâtiments sur 24 novembre, avaient été construits par l'Union européenne pour abriter l'École nationale des droits et d'administration, pour permettre à l'État congolais de former ses futurs magistrats et ses futurs hauts fonctionnaires. L'État fonctionne pour lui-même comme une microstructure, n'évalue pas les besoins en justice de la population pour pouvoir chercher à recruter les magistrats pour qu'il y ait un nombre suffisant de magistrats. L'État se contente de dire qu'il a une justice, qu'il a un ministère de la justice, qu'il a des cours et tribunaux. Mais ça couvre quelle superficie du pays, quelle quantité de la population, ça ne représente pas grand-chose. C'est pour ça que je dis que c'est l'État lui-même qu'il faut restructurer pour qu'il prenne les dimensions lui permettant de gérer son pays.
À votre époque, quand vous étiez ministre de la Justice, est-ce que la justice était proche de la population,
madame,
était proche des justiciables?
Madame, je vais vous dire une chose. À l'époque où j'étais ministre, on sortait d'une période de grève. Les magistrats avaient fait grève pendant 6 mois. Je n'ai pas vu dans la presse que la population se plaignait que les magistrats soient en grève. Vous comprenez ce que ça veut dire? Sous le rejet sans la population. Il faut voir quels sont les services que la justice rend à la population. Si 100 problèmes qui se posent au pays et qui demandent la justice, il y en a moins de 10 qui passent par la justice. Et là, vous sentez que on est loin d'avoir une justice comme on l'entend dans beaucoup de pays. D'habitude, quand on fait une critique de la justice congolaise, on regarde ce qui fonctionne pour dire que les bâtiments sont insuffisants, sont mal entretenus, sont inadaptés. Pour dire que les magistrats sont corrompus, et le personnel judiciaire est insuffisant et sous-qualifié. Mais on oublie les problèmes fondamentaux.
C'est quoi ces problèmes fondamentaux?
Les problèmes fondamentaux concernent la distribution de la justice au Congo pour sécuriser la population. Et l'État doit savoir combien de magistrats il faut, où il faut installer les cours et tribunaux. Et puis, ça ne suffit pas.
Peut-être qu'il n'y a pas de moyens pour installer les cours et tribunaux partout.
Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on parle de Niangara. Il y a une expression dans la terminologie congolaise de Niangara-Kata. On pense qu'il n'y a pas entendu de quelqu'un qui est Niangara-Kata. On pense qu'on l'injurie. Cela voulait dire que quand quelqu'un était impliqué dans la grande criminalité, on l'a envoyé au tribunal de première instance de Niangara, dans la province orientale, pour qu'il aille se faire juger là-bas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si le pays n'a pas assez de moyens pour avoir le nombre de magistrats qu'il faudrait, le nombre de cours de tribunaux qu'il faudrait, il peut disposer d'un certain nombre de tribunaux spécialisés où on envoie toutes les personnes qui sont impliquées pour se faire juger là-bas, ou pour aller faire chercher la justice là-bas. C'est aussi un problème de volonté quelque part, de la détermination du Congolais à développer le pays par la justice. Mais si la justice ne fonctionne pas bien, c'est difficile de voir ce qui peut permettre de rectifier les déviances, les dérapages de la population et ce qui trace l'orientation générale à suivre, dans quelle direction il faut aller et quelles sont les normes sociales qu'il faut respecter. Ça crée une certaine confusion globale. On ne sait plus ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
On va rester dans le domaine de la justice, mais cette fois-ci, on va parler du droit coutumier. Vous avez une licence spéciale en droit coutumier. De plus en plus, on observe des conflits coutumiers dans notre pays, et c'est dans presque toutes les provinces, des conflits coutumiers liés aux conflits fonciers internes, liés au pouvoir coutumier ou au contrôle des ressources naturelles. Il y a eu même à l'Assemblée nationale un débat très houleux sur la proposition de supprimer les juridictions coutumières à travers le pays.
Je vais vous dire une chose. Après mes études de droit coutumier à l'Université Lovanian, je suis allé à Paris, passé 2 années au laboratoire d'anthropologie juridique pour lire la littérature francophone en droit coutumier dans les autres pays. Un bâton insuffisant en matière de loi traditionnelle. Vous savez, madame, si aujourd'hui il y a une sorte de résurgence de conflit de type coutumier, je vous dis que ce n'est pas l'unique domaine où il y a des problèmes qui surgissent de partout comme ça. Si la justice conventionnelle, la justice d'État, la justice instituée fonctionnait suffisamment d'abord, correctement ensuite, il y aurait de moins en moins de conflits coutumiers et que ce sont des juges formés dans l'enseignement supérieur qui prendra en charge des problèmes. Mais ici, nous nous trouvons dans une sorte de récupération du pouvoir judiciaire par les chefs coutumiers, mais parce que le pouvoir horaire de vide, il y a un vide, il y a une demande judiciaire de la part de la population qui n'est pas satisfaite. Les conflits fonciers qui impliquent les chefs coutumiers posent de nombreux problèmes. Le premier, c'est que l'État congolais lui-même n'arrive pas, y compris dans la capitale, à faire respecter la loi. Vous allez sur le plateau de Matete, vous allez dans la banlieue de Kinshasa ici, vous trouvez des membres du gouvernement, vous trouvez des parlementaires, vous trouvez des mandataires de l'État et des entreprises publiques, vous trouvez les hauts fonctionnaires de la fonction publique en train de négocier avec des gens qu'ils appellent chefs coutumiers pour l'octroi de terrain. La constitution congolaise décrète que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. Et c'est le même État qui, au sujet de la terre, oublie ou néglige ou ignore la loi foncière que lui a fait élaborer, adopter, pour négocier avec les chefs coutumiers l'acquisition de terres.
Les chefs coutumiers n'ont pas un mot à dire par rapport à l'acquisition de terres.
La Constitution le dit, et la loi foncière le dit aussi, les chefs coutumiers ont un mot à dire en ce qui concerne des terres occupées par les populations qui les administrent, pour que ces populations soient sécurisées. Ils aient assez de terres pour cultiver, pour construire leur maison, pour créer des lieux de loisirs, qu'ils aient de l'eau et potable, qu'ils aient des ressources pour vivre. Ce n'est pas un pouvoir qui est donné aux chefs coutumiers, c'est un droit qui est laissé à des collectivités congolaises qui occupent un espace, une colline, une vallée pour vivre. Il n'y a pas de dualité entre l'État et les chefs coutumiers en matière de terre. Les chefs coutumiers sont des acteurs.
Et donc il faut supprimer ces juridictions coutumières.
Madame, les juridictions coutumières ont déjà été supprimées à l'époque où l'on a intégré le droit coutumier dans le droit écrit.
Les gens vous disent qu'il y a un problème, la justice est très loin, elle est très loin de la population, la justice ne couvre pas tous les pays. Si la justice ne peut pas couvrir tous les pays, il y a des chefs coutumiers, pourquoi ils ne peuvent pas faire ce travail-là de la justice?
Oui, vous posez un problème important. Il faut examiner la possibilité de donner un pouvoir supplétif aux chefs coutumiers. Ils n'ont pas de pouvoir aujourd'hui de gérer la terre. Ce qu'ils font, c'est anarchique. Et je vous explique pourquoi c'est anarchique. C'est puisque l'État central n'a pas la capacité de faire respecter la loi. Alors, les chefs sont en face des problèmes quotidiens qui se posent. Et ils récupèrent le pouvoir judiciaire et se permettent de rendre des jugements. Les tribunaux coutumiers ont déjà été supprimés. Si on estime que les chefs peuvent jouer un rôle, qu'on étudie la possibilité de réhabiliter les juridictions coutumières, qu'on forme ces chefs, parce que ces chefs seront, ils n'appliqueront pas la coutume. Ils devront appliquer la loi foncière, la loi du pays. Et pour l'appliquer correctement, il faudra que ces chefs coutumiers l'apprennent, l'étudient, la connaissent, pour pouvoir l'appliquer.
Mais les magistrats eux-mêmes, ils n'aiment pas trop les affectations dans les milieux ruraux, prétextant ne pas maîtriser la coutume.
Oui, madame, vous voyez, la constitution congolaise, les lois congolaises ne demandent pas aux magistrats de maîtriser la coutume. Nous avons déjà unifié la coutume et le droit écrit. Nous avons un code de la famille. Les coutumes considérées comme utiles au pays ont été sélectionnées et introduites sous forme d'articles dans le code de la loi. Si le magistrat ne veut pas aller travailler à l'intérieur, ce n'est pas parce qu'il ne maîtrise pas la coutume. C'est parce que l'intérieur est difficilement vivable pour des gens qui ont étudié dans les villes. C'est toujours le problème de l'État. L'État ne viabilise pas les villages, les centres, les chefferies. Pour que quand on y envoie un magistrat qui est quand même un représentant du pouvoir judiciaire, qu'il puisse y trouver un minimum de bien-être conforme à son niveau de vie et aux études qu'il a faites au concours de l'exercice.
Oui, maître, mais lorsque je prends un exemple, on se retrouve dans un village, il y a un conflit foncier, il y a aussi une juridiction de l'État là-bas qui peut trancher ce conflit, il y a plusieurs coutumes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas?
Non, mais j'ai dit ceci. Notre pays est une république unitaire. Il y a les institutions du gouvernement central à Kinshasa. Le même pays est coupé pour le moment à 11 provinces. Je dis pour le moment, puisque d'après la Constitution, c'est le 26. 11 provinces sont censées fonctionner. 11. Chacune de ces provinces est à son tour subdivisée en districts. Chaque district regroupe un certain nombre de territoires. Chaque territoire est découpé en une série de secteurs. Chaque secteur réunit un certain nombre de groupements. Chaque groupement gère un certain nombre de villages. Donc, la structure administrative existe. Il suffit de l'animer, de la réglementer, de la restructurer, de la motiver, de la responsabiliser, de la contrôler. Et ça peut fonctionner. Et ça doit fonctionner.
Nous tendons lentement vers la fin de notre entretien. Maître Yoko, je vois que vous avez publié plusieurs ouvrages. Hein?
Oui. Je suis en train d'en publier maintenant 4.
Sur la justice?
Non.
Sur quoi?
Sur la diplomatie.
Sur la diplomatie. Vous avez travaillé aussi dans la diplomatie?
Je suis un ancien ambassadeur du Congo. Oui, madame. J'ai été le représentant permanent du Congo à Genève pendant 5 ans. J'étais l'enfant juste conseiller du ministère des Affaires étrangères, le responsable du service juridique du ministère des Affaires étrangères. Et je me mettais envoyé en France étudier pour ce service-là.
Quand vous n'êtes pas plongé dans vos syllabus ou dans vos ouvrages, comment vous passez vos moments de détente, maître Yoko?
Madame, je peux vous décevoir.
Pourquoi vous allez me décevoir?
Oui. Parce que dans ma vie, à moi, il n'y a pas de moment de détente.
Comment expliquer, maître Yoko? Personne n'a quand même besoin d'être pris un petit moment de détente.
Le seul moment de détente pour moi, c'est au moment où je dors. Tant que je ne dors pas, je lis, ou j'écris, ou je débat, je fais toujours quelque chose, même dans les toilettes.
Pourquoi vous n'avez pas de moment de détente?
J'ai pas de moment de détente. C'est comme ça que toute ma vie, j'ai pas tenu les vacances.
C'est pas bon pour la santé.
Malgré le fait que je vis à la salle de française, qui a une autre culture, qui est le docteur Alex.
Maître Yoko, nous sommes à la fin de notre entretien. Comment rétablir la confiance en la justice congolaise qui semble faire défaut aujourd'hui?
Ah, là, ça pose un problème important. Ce qu'il faut faire, moi je dis qu'il faut d'abord commencer par ouvrir une école pour la formation des magistrats. Pour le perfectionnement des magistrats. Il faut que les magistrats apprennent leur futur métier. Première chose, qu'ils aient une bonne formation professionnelle leur permettant d'aimer leur mission, de l'accomplir avec compétence. Deuxièmement, il faut reconnaître que les magistrats appartiennent au troisième pouvoir, comme le Parlement, comme le gouvernement. Et ils ont droit à une bonne part du budget de l'État pour qu'ils ne soient pas les parents pauvres. Vous savez, madame, la plupart des maisons de la Lomé, qu'on appelait des Calunas, avaient été construites pour loger les hauts fonctionnaires, parmi lesquels se trouvaient principalement des magistrats. Aujourd'hui, nos magistrats, même dans la capitale, vivent dans des zones périphériques, marécageuses. Et puis, la plupart vont à pied. Et puis, il faut voir comment ils vivent. C'est pas avec ça qu'on peut avoir une bonne magistrature. Il faut des magistrats bien traités, bien payés, qui revalorisent la fonction judiciaire. Il faut le faire. Si on réunit ces conditions de formation intellectuelle et professionnelle, et de rémunération adéquate des magistrats, des créations, des cours et tribunaux, et en fonction de l'accroissement de la population, on peut arriver au résultat. La loi peut être dure, mais c'est la loi, à partir du moment où elle est appliquée correctement, il faut l'appliquer.
Maître Yoko, je vous remercie pour avoir accepté de venir dans le grand témoin.
Madame, c'est moi qui vous remercie infiniment. vous avez reçu une histoire en me faisant venir ici, en me faisant parler, parce que je me suis tué pendant 5 ans.
Merci, Maître Yoko. Durant ce mois, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Maître Yoko Yakem de Jean Placide, avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Merci à Edu Marquis qui était à la technique. Au micro, Kelly Nkouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon prix de programme sur la fréquence de la télé.